Vous écoutez, on lit pour vous.
SABSA, toujours précaire après 10 ans. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir. 10 ans après son ouverture, la clinique d'infirmières SABSA peine toujours à se financer. Première clinique du genre à avoir ouvert ses portes au Québec, elle n'est pas admissible au programme de près de 400 millions de dollars lancé par le gouvernement Legault en 2022 pour financer les cliniques d'infirmières. L'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, Isabelle Têtu, est tombée des nues quand elle s'en est rendue compte. « Ça fait quand même 10 ans qu'on attend », dit-elle. Située dans le quartier Saint-Roch à Québec, cette coopérative de solidarité qui offre des services à bas seuil d'accessibilité, SABSA, accueille depuis 2014 les marginaux, les itinérants et autres orphelins du système. Une œuvre sociale qui a valu à son équipe une pléthore de prix et d'honneurs. Ordre des infirmières, Université Laval, CHUM, etc. Mais à l'époque de l'ouverture, l'idée même d'une clinique d'infirmières faisait face à un bloc de résistance. Les médecins y voyaient un dangereux précédent et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s'opposait à ce qu'on les finance. 10 ans plus tard, on est ailleurs. L'actuel ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a débloqué 395 millions de dollars en 2022 pour financer 23 cliniques d'infirmières au Québec d'ici 2028. Or, SABSA n'a pas accès à ce fonds. Dans son cadre de référence sur le financement des cliniques de 2023, le ministère s'est engagé à produire un cadre spécifique pour les cliniques à vocation interdisciplinaire de type organisme à but non lucratif comme SABSA. Quand sera-t-il prêt? Le ministère de la Santé n'est pas en mesure de le dire et soutient qu'il est en rédaction. L'équipe de SABSA affirme qu'elle s'est fait dire par des représentants du ministère que ça se ferait d'ici 2 ans. Mais elle est sur ses gardes. « Dans 2 ans, on va retourner en élection », rétorque Isabelle Têtu. « La cassette, on l'a entendue. » Et qu'adviendra-t-il si SABSA ne rentre pas non plus dans le nouveau cadre? Les salaires payés par la Fondation. À l'heure actuelle, près de la moitié du budget de SABSA vient de sa fondation, 46 % d'environ 400 000 $ par an. Or, les activités de la fondation plafonnent, selon sa présidente, l'ex-députée péquiste Agnès Maltais. La part de la fondation est énorme, dit-elle. La moyenne dans les organisations, c'est entre 10 et 20 %. Financée à l'origine par la Fédération interprofessionnelle de la santé dans le cadre d'un projet pilote, la clinique a conclu une entente à l'arraché en 2016 avec le ministère de la Santé et le CIUS de la Capitale-Nationale. L'État paie donc le salaire de 3 de ses infirmières praticiennes spécialisées, lui fournit son matériel et paie un certain pourcentage du salaire des autres employés, pour l'équivalent de 200 000 $ par an. Mais ça n'a jamais suffi. La clinique s'en est donc tirée grâce aux activités de la Fondation, qui paie les salaires d'une bonne partie du personnel. Au ministère, on souligne que SABSA n'est pas un point de service du réseau et que son statut ressemble plutôt à celui d'un organisme communautaire ou d'un organisme à but non lucratif, OBNL. Il faut comprendre qu'une grande partie du financement d'un OBNL provient généralement de la philanthropie, notamment pour les frais liés aux infrastructures, a indiqué sa porte-parole par écrit. La solution en apparence la plus simple pour régler le problème de la clinique consisterait dès lors à quitter le modèle coopératif et à intégrer complètement le réseau de la santé, convient la directrice générale de SABSA, Amélie Bédard. Mais l'équipe s'y refuse et fait valoir que SABSA ne serait dès lors plus SABSA. Le nom le dit. La clinique SABSA tire sa dénomination de l'expression « bas seuil d'admissibilité », c'est-à-dire qu'elle accueille tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Ce n'est pas que le CIUS, c'est mauvais, mais on n'aurait plus l'agilité dont on a besoin pour desservir les gens qu'on dessert, expliquent Amélie Bédard et Isabelle Tétu. La structure syndicale et l'ancienneté, par exemple, empêcheraient la clinique d'engager les gens qu'elle veut engager, croit Mme Bédard. Ça prend des gens ayant des profils particuliers, capables d'interagir avec des gens qui sont souvent colorés, qui rentrent ici sous l'influence de la drogue ou de l'alcool, qui peuvent insulter. Le modèle SABSA ne cadrerait pas non plus avec les procédures, fait valoir Marie-Christine Leclerc, infirmière de longue date à la coopérative. Si la personne arrive intoxiquée, on peut lui dire de revenir demain. On a cette souplesse-là. On ne devrait plus exister. En attendant, le ministère lui a quand même offert de rehausser sa subvention, mais pas à la hauteur souhaitée, indique la directrice. « On ne demande pas des millions », lance-t-elle en levant les yeux au ciel. « Peut-être 700 000 ou 800 000 $ de plus. » La clinique n'est pas au bord de la fermeture, mais elle ne fournit pas à la demande. En effet, Steve Giroux, le seul travailleur social de l'équipe, dit être submergé de patients ayant des problèmes de dépendance. « Ça n'a pas de bon sens », dit-il. « Je ne suis pas en mesure de répondre à toutes les références. » La direction voudrait convertir des postes à temps partiel en postes à temps plein, améliorer les conditions associées. « On montrait une structure de gestion qui a du bon sens », poursuit Amélie Bédard. « On essaie d'avoir des coordonnateurs, une adjointe administrative à temps plein pour gérer la comptabilité. » La situation de la clinique s'est quand même améliorée à certains égards depuis 10 ans, reconnaît Isabelle Tétu. L'établissement a déménagé dans des locaux plus grands et peut compter sur une plus grosse équipe. Au total, pas moins de 30 employés y sont désormais rattachés. Parce que, pendant ce temps, les responsabilités de SABSA se sont étendues. En partenariat avec le CIUS, elle offre depuis 2022 un service de clinique mobile qui se déplace désormais jusque dans Charlevoix et Portneuf. C'est aussi SABSA qui a pris en charge le Centre d'injection supervisée de Québec, l'Interzone, en 2021, toujours en partenariat avec le CIUS. Un service à partir duquel elle peut aiguiller des gens vers la clinique et maintenir le lien avec ceux qui ont des problèmes de santé. Pour réaliser ses projets, elle reçoit 900 000 $ de plus. La coopérative serait-elle en train de s'éparpiller? Amélie Bédard répond que l'argent des projets permet de financer en partie la clinique par des frais de gestion. En même temps, les projets répondent aux besoins de nos clientèles. On se sentait très, très, très interpellés. À quelque part, SABSA ne devrait plus exister, indique Marie-Christine Leclerc, en expliquant que la clinique avait été créée à l'origine pour ramener dans le réseau des patients désaffiliés et les diriger vers les services de deuxième ligne. On devrait avoir un nombre de patients décroissant parce que le réseau aurait décidé de faire quelque chose pour eux. Mais là, 10 ans après, c'est l'inverse. On a plus de patients et la clientèle n'a pas été prise en charge. Ça ne fait que grossir. C'était « SABSA, toujours précaire après 10 ans », un texte d'Isabelle Porter paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir.
Transition écologique. Qui se soucie des travailleurs? Un texte d'Andréane Brazo, paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir. Lorsqu'il est question de transformer notre économie pour lutter contre la crise climatique et mener la transition énergétique, on parle souvent des moyens d'y parvenir, du comment. On parle toutefois rarement de l'élément essentiel à notre réussite, le qui, les travailleurs et travailleuses. Et en ce moment, à Ottawa, nos élus ont la responsabilité de planifier l'avenir de millions de ces personnes. Le projet de loi C-50, la loi canadienne sur les emplois durables, permettrait de faire un bout de chemin sur ce plan. Pourtant, ce dernier ne progresse pas assez rapidement vers une adoption. Le temps presse. Il ne faut pas laisser tomber celles et ceux qui travaillent dans des secteurs voués à disparaître ou à se transformer. Pensons aux raffineries de Montréal-Est, à Énergir, à la fonderie Horn. Tant d'exemples d'entreprises qui devront, à moyen terme, revoir leurs activités pour survivre. Toute l'économie de demain en dépend. Il faut donc arrêter de ramer à contre-courant et préparer cette transition. Nous sommes plusieurs à attendre cette loi, que ce soit le mouvement syndical, les groupes environnementaux, les communautés dépendantes économiquement des ressources naturelles de leur région ou les entreprises qui occupent leur territoire. Après l'adoption du projet de loi, le gouvernement fédéral devra mettre en place un plan d'action visant à adapter les milieux de travail et les compétences de notre main-d'œuvre à une économie qui se décarbone. Ce n'est pas rien. Il est urgent qu'on se dote de ce genre de mécanisme si on veut bien se positionner dans le marché mondial. D'autres régions, comme l'Écosse, l'Espagne, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, l'ont déjà fait. Quelles compétences devons-nous développer? Quel secteur d'avenir manque de main-d'œuvre en ce moment? On nous dit à l'oreille que les 3000 emplois créés par la méga-usine batterie Northvolt pourraient rester vacants longtemps. Pour entrer en vigueur avant que le Parlement ne tombe en période préélectorale, il faut que le projet de loi soit adopté par les deux chambres d'ici juin. Le marché du travail et la main-d'œuvre doivent être prêts à saisir les occasions offertes par la transition écologique et énergétique. L'adoption du projet de loi sur les emplois durables permettra de passer le message haut et fort. Les travailleurs et travailleuses du Canada seront mobilisés et prêts à se mettre à l'œuvre pour une société qui a réussi une transition juste, hors des énergies fossiles, qui offre des emplois de qualité et où il fait bon investir. La transition n'est pas à venir, elle est en marche. Le Canada doit rattraper le temps perdu. C'était Transition écologique, qui se soucie des travailleurs? Un texte d'Andréane Brazo, paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir.
Pourquoi rouler avec un gros véhicule dans les rues de Montréal? Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 29 mars 2024 dans Le Devoir. Comme ailleurs au pays, les camions légers gagnent du terrain à Montréal. Mais pourquoi rouler en VUS, véhicule utilitaire sport, ou en mini-fourgonnette dans la métropole, alors que les espaces de stationnement sont restreints et que le mode de vie urbain ne requiert généralement pas de charroyer des cordes de bois ou d'affronter des milieux hostiles? Le Devoir s'est entretenu avec plusieurs citadins propriétaires de gros véhicules. En 2022, l'île de Montréal comptait un peu plus d'un million de véhicules immatriculés, toutes catégories confondues, indiquent les données de la Société de l'assurance automobile, SAAQ. Il s'agit de près de 38 000 véhicules de plus qu'en 2017, mais tout de même d'une baisse de 1 258 véhicules par rapport à l'année 2021. C'est au chapitre des camions légers que la hausse est la plus marquée. Entre 2017 et 2022, dans la catégorie des véhicules de promenade, leur nombre est passé de 266 615 à 336 158 dans la métropole, pendant que le nombre d'automobiles n'a cessé de baisser. Sur l'île de Montréal, les camions légers n'ont pas encore déclassé les automobiles. Dans plusieurs régions, toutefois, leur nombre dépasse maintenant celui des voitures. C'est le cas sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue. Petite famille. En 2015, Delphine Provençal et son conjoint ont fait l'acquisition d'une mini-fourgonnette, une Honda Odyssey d'occasion, permettant de caser 8 passagers. Mais pourquoi un tel véhicule dans un quartier urbanisé comme Rosemont-la-Petite-Patrie? Nos trois garçons jouent au hockey. Alors on a choisi une auto qui nous permettait de voyager nos trois enfants avec leurs poches de hockey, explique-t-elle. On trouvait important aussi de pouvoir amener les amis et les coéquipiers. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un gros véhicule. Ce qui complique les choses, c'est que les matchs se déroulent parfois simultanément dans différents arénas aux quatre coins de la ville. Reste que, parfois, la mini-fourgonnette reste sagement stationnée. Maintenant, comme les enfants sont plus vieux, on se rend parfois à l'aréna à vélo avec la poche de hockey. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas envisagé avant, dit-elle. José Laterreur a récemment acheté un VUS Toyota RAV4 et ne s'en passerait pas. C'est sûr que, dans l'absolu, j'aimerais ça être végétarienne, ne pas avoir de voiture et faire tout à pied, mais bon, je manque un peu de temps et d'organisation. Et faire du vélo à Montréal, même l'été, je trouve ça assez dangereux, explique celle qui, pour des raisons professionnelles, doit faire beaucoup de déplacements en ville. Bancs de neige et nid de poule. Si les Montréalais ne semblent pas, à première vue, faire face à des conditions de route extrêmes dans leurs déplacements, ceux-ci ne sont pas toujours aisés. Il leur faut composer avec des nids de poule, des plaques de glace et des monticules de neige qui mettent parfois la mécanique à rude épreuve. Avant, j'avais une Honda Civic et j'ai abîmé le dessous de la voiture. C'est bien que la ville ne déneige pas systématiquement, mais en ville, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la neige. Avoir un véhicule plus haut, ça permet de circuler mieux en ville. José Laterreur a envisagé de prendre des transports en commun, mais elle a vite renoncé à cette option compte tenu des temps de déplacement trop longs pour elle. De plus, le métro et les autobus bondés ne lui paraissent pas très attrayants. Courtière immobilière Chantal Gobeil a elle aussi opté pour un VUS. Comme d'autres, elle évoque l'état des rues à Montréal. La voiture de plus petite taille qu'elle avait auparavant lui causait bien des maux de tête. C'est comme ça que j'ai connu tous mes voisins. Ils devaient venir me pousser, relate-t-elle. Son Nissan Rogue lui permet de manœuvrer plus aisément dans les places de stationnement mal déneigées. J'en ai besoin pour mon travail et j'ai de la famille en Abitibi et au lac Saint-Jean. Mélissa Jourdain et son conjoint sont de grands adeptes de vélo, même en hiver, mais leur véhicule est fort utile pour la famille qui grandit, avec un troisième enfant en chemin, fait-elle valoir. Honte à nous, cela a vraiment été une grosse discussion dans la maison, mais on s'est ramassé avec un VUS parce qu'on a, bientôt, trois enfants. Mais c'est un hybride, ça allège un peu ma conscience, mais pas tant. Même si Montréal encourage la mobilité active et multiplie les pistes cyclables, la ville demeure très axée sur les déplacements en voiture, selon elle. « Je trouve qu'au Québec, tout est fait pour qu'on ait une voiture. Près de chez nous, il y a des commerces de grande surface avec d'immenses stationnements. Ce n'est pas agréable à pied, mais je serai la première à tout vouloir faire à pied. » La publicité. La popularité grandissante des camions légers, tant à Montréal que dans tout le Québec, préoccupe Catherine Morancy, professeure à Polytechnique Montréal et spécialiste de la mobilité urbaine. je pense que les concessionnaires et les constructeurs automobiles ont bien fait leur travail en réussissant à convaincre tout le monde du besoin d'avoir un gros véhicule, dit-elle. Elle montre du doigt la publicité omniprésente et les plans de financement qui permettent aux acheteurs d'étaler leur paiement sur 60 mois. Ça donne l'impression aux gens qu'ils peuvent se payer ce type de véhicule. Selon elle, la publicité automobile devrait être réglementée, voire interdite, afin que son contenu soit mieux encadré. La publicité ne va pas montrer des faits. Elle va même aller jusqu'à montrer des comportements illégaux, dit-elle en évoquant les images de véhicules circulant à toute allure dans des ruisseaux. Les autorités ne donnent aucun signal clair pour contrer la hausse du nombre de gros véhicules, selon elle. S'il prend l'avion, le voyageur devra payer un tarif établi en fonction de la taille de sa valise et respecter une certaine limite. Sur les routes, il n'y a pas ça. C'est un service public. Si ma voiture est tellement grosse que j'empiète sur les autres espaces de stationnement, je ne paie pas plus cher. À cet égard, les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-la-Petite-Patrie imposent désormais des vignettes dont le coût varie en fonction du poids des véhicules. Une voie prometteuse, selon elle. La taille des véhicules peut avoir des conséquences insoupçonnées. Au Royaume-Uni, l'association British Parking Association a même conclu que les VUS et les voitures électriques pouvaient représenter un danger potentiel de par leur poids pour l'intégrité des stationnements conçus à une autre époque pour des véhicules plus légers. C'était « Pourquoi rouler avec un gros véhicule dans les rues de Montréal ?» un texte de Jeanne Corriveau, paru le 29 mars 2024 dans Le Devoir.
Meta identifiera le contenu généré par l'IA sur ses réseaux sociaux. Un texte de Kylian Fichou de l'agence France Presse, paru le 5 avril 2024 dans La Presse. Le géant américain Meta va identifier sur ses réseaux sociaux les sons, images et vidéos générés par l'intelligence artificielle, IA, à partir de mai 2024. Une décision prise sur fond de lutte contre la désinformation dans une année riche en scrutins électoraux. Nous prévoyons de commencer à étiqueter les contenus générés par l'IA en mai 2024, a expliqué dans une note de blog Monica Bickert, vice-présidente responsable des politiques de contenu de la société mère de Facebook, Instagram et Threads, précisant que la mention « Made with AI » allait être apposée sur un plus grand nombre de contenus vidéo, audio et images que précédemment. Ces contenus seront marqués par la plateforme si elle détecte des indicateurs d'image IA conformes aux normes de l'industrie ou si des personnes indiquent qu'elles mettent en ligne des contenus générés par l'IA, a-t-elle souligné. Outre la détection de marqueurs visibles, Meta compte aussi déceler toute trace de watermarking, une forme de tatouage numérique qui consiste à insérer une marque invisible à l'intérieur d'une image lorsqu'un outil utilisant l'IA la génère. Un filtre, c'est mieux que rien, mais il y aura forcément des trous dans la raquette, relève Nicolas Gaudemet, directeur IA du cabinet OnePoint. Il prend l'exemple des logiciels en source ouverte, open source, qui n'ont pas toujours recours à ce type de tatouage quand ils créent une image, mais relève que la plupart des IA génératives grand public, comme celles de Google, Microsoft ou OpenAI, intègrent aujourd'hui ce type de technologie. Le groupe californien annonce plus globalement qu'il va modifier sa manière de traiter les contenus modifiés par une IA après consultation de son conseil de surveillance,
estimant que la transparence et davantage de contexte sont désormais la meilleure façon de traiter les contenus manipulés afin d'éviter le risque de restreindre inutilement la liberté d'expression. Chaos politique. En l'occurrence, il considère désormais qu'il est préférable d'ajouter des étiquettes et du contexte à ces contenus plutôt que de les supprimer, comme il s'y employait jusqu'ici. La mise en contexte est absolument nécessaire, reconnaît M. Gaudemet, même s'il estime qu'il faut attendre de savoir exactement quelle forme celle-ci va prendre chez Meta. L'entreprise a néanmoins précisé qu'elle allait continuer à retirer de ses plateformes tout contenu, qu'il soit créé par un humain ou une IA, allant à l'encontre de ses règles contre l'ingérence dans le processus électoral, l'intimidation, le harcèlement, la violence ou toute autre politique figurant dans ses normes communautaires. Elle compte également sur son réseau d'environ 100 vérificateurs de faits indépendants pour repérer les contenus générés par IA, faux ou trompeurs. La société mère de Facebook avait annoncé en février 2024 son souhait d'étiqueter toute image générée par IA, une décision prise sur fond de lutte contre la désinformation. D'autres géants de la technologie comme Microsoft, Google, OpenAI ou Adobe ont pris des engagements similaires. L'essor de l'IA générative fait craindre que des personnes n'utilisent ces outils pour semer le chaos politique, notamment au moyen de la désinformation ou de la mésinformation à l'approche de plusieurs élections majeures cette année, notamment aux États-Unis. Au-delà de ces scrutins, le développement de programmes d'IA générative s'accompagne de la production d'un flux de contenu dégradant, selon de nombreux experts et régulateurs, à l'image des fausses images, deepfakes, pornographiques de femmes célèbres, phénomène qui vise également des anonymes. C'était « Meta identifiera le contenu généré par l'IA sur ses réseaux sociaux », un texte de Kylian Fichou de l'agence France Presse, paru le 5 avril 2024 dans la presse.